j'ai commencé un peu à boitiller vers l'âge de 30, 32 ans. On apprend à vivre avec la douleur, donc c'est ce qui s'est passé chez moi, c'est que comme c'était gentiment, c'est venu petit à petit, la douleur était de plus en plus forte, mais finalement, on s'y habitue. Donc là, je me suis dit, bon, ouais, voilà, quoi, ça fait un peu mal, mais ça passera.
On a tendance à l'imaginer un peu linéaire. On naît, on vit, on meurt. Mais dans ce grand intervalle qu'on appelle la vie, le chemin n'a rien de rectiligne. On aime, on pleure, on trébuche, on se relève, on bifurque, on affronte, on rit, on apprend. Sur cette route sinueuse, notre seul véhicule, c'est lui, notre corps. Celui qui nous porte et nous déploie, celui qui nous permet des exploits, que ce soit de donner la vie ou de gravir l'Everest. Mais parfois, sa santé s'enraye et elle vacille. C'est alors que s'ouvrent une ou plusieurs parenthèses, entre lesquelles il va falloir l'écouter, comprendre les mots qui l'affaiblissent, les traiter ou apprendre à vivre avec, mais quoi qu'il arrive, un peu autrement que sans. Un sentier sinueux qui surgit au milieu de la route et sur lequel on vous emmène avec nous dans ce podcast. Que se passe-t-il quand la maladie, l'accident ou même des événements plus joyeux, comme la naissance, ouvrent une parenthèse dans nos vies ? Ce podcast vous est proposé par Hirst London, les cliniques Boisset et Cécile, et le quotidien 24 heures. Dans cet épisode, nous allons explorer une pathologie peu connue, la dysplasie de hanche, une anomalie congénitale qui affecte la forme de l'articulation de la hanche. Conséquence, une moins bonne répartition des pressions liées au poids du corps sur l'articulation, qui entraîne des douleurs et à long terme de l'arthrose. Généralement sourde pendant l'enfance, les douleurs apparaissent fréquemment chez les jeunes adultes. Cette pathologie peut mener à la mise en place de prothèses de hanche avant l'âge de 40 ans. C'est l'histoire qui est arrivée à Nicolas, grand sportif, prof de tennis un peu casse-cou et pas très copain avec les cabinets médicaux.
Enfant, j'étais assez sportif, je suis né dans une famille de sportifs, donc j'allais en ski, je faisais du roller, je faisais du skateboard, je faisais un petit peu de tout. J'ai commencé à avoir un petit peu des douleurs vers l'âge de 25 ans. C'était à Bruxelles, on était assis sur la place du Roi. Tout le monde était en tailleur, on était en train de boire des coups. Et puis là, j'ai commencé à sentir des premières douleurs un peu embêtantes. Donc, puis je me suis dit, ouais, c'est pas grave, ça passera. Et puis finalement, ces douleurs ont persisté. Et c'était tout simple, c'était que le nerf sciatique était inflammé un petit peu constamment. J'ai vécu avec, puis je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis que c'était pas forcément une peur des médecins, mais ouais. Ouais, je peux peut-être dire ça. Peut-être une peur des médecins, une peur d'aller m'embêter. Quand j'étais petit, j'étais assez casse-cou. J'allais souvent à l'hôpital. Je me suis cassé un petit peu tous les membres. Donc, c'était pas les endroits les plus heureux de ma vie. Donc, si je pouvais les fuir, c'était mieux. Alors, c'est pour ça que le médecin, pour moi, c'est un petit peu compliqué d'aller vers lui. Ça prend un peu plus d'ampleur. Ça fait de plus en plus mal. Les nuits, elles sont un petit peu courtes. Je me réveillais souvent. Puis, étant donné que je faisais beaucoup de sport encore, donc cette inflammation du nerf sciatique était constamment là. Là, je commençais à être un petit peu gêné. Et puis, j'ai commencé un peu à boitiller vers l'âge de 30, 32 ans. On apprend à vivre avec la douleur. Donc, c'est ce qui s'est passé chez moi. C'est que comme c'était gentiment, c'est venu petit à petit. La douleur était de plus en plus forte. Mais finalement, on s'y habitue. Donc là, je me suis dit, bon, ouais, voilà, quoi, ça fait un peu mal, mais ça passera. Je dirigeais un camp au Diableret, un camp de sport, multisport, mais surtout basé sur le tennis. Et puis, le premier jour, il pleuvait, on n'avait pas pu aller jouer, puis on a été faire de l'escalade. Et le soir même, très mal, mais ça va, comme d'habitude. Et puis le matin, par contre, alors là, j'arrivais plus à mettre mes chaussettes, donc à gros coup de cintre, en train d'essayer de s'amuser. Donc, j'ai appelé mon médecin pour savoir s'il y avait possibilité de faire quelque chose. Et puis j'ai eu très vite un rendez-vous et puis il a confirmé la dysplasie. Il m'a expliqué qu'à la naissance, les hanches, elles se mettent normalement justement dans des trous. Et puis là, ça n'a pas été le cas. Et puis je suis resté en dessous. Donc c'est bien, j'ai gagné, je crois, 3, 4 centimètres après l'opération. Voilà l'avantage de la dysplasie.
Le docteur Guy Messerly, spécialiste en chirurgie orthopédique à la clinique Boissère.
La dysplasie, c'est une anomalie de couverture de la tête fémorale, c'est-à-dire que la tête fémorale est mal couverte et entraîne une augmentation de l'usure précoce de la tête du fémur, l'usure précoce aboutissant à l'arthrose coxofémorale. Pour la plupart des patients jeunes, ils se rendent compte de cette pathologie parce que dans la pratique du sport ou dans les pratiques, on va dire, physiques en général, La douleur intervient subitement dans le pli de l'aine ou sur la face latérale de la cuisse ou de la hanche. Et ça devient de plus en plus récurrent, c'est-à-dire qu'au départ, c'est des douleurs qui sont relativement peu importantes et puis ensuite, c'est des douleurs qui sont quasiment tout le temps présentes et qui interviennent ensuite la nuit. Et dans un deuxième temps, on va avoir une diminution progressive de la mobilité de la hanche qui perd en rotation, avec des fois dans les cas extrêmes, des gens qui n'avaient même plus à mettre leurs chaussettes ou leurs chaussures. La pathologie peut toucher les deux hanches. Dans ma pratique, c'est souvent bilatéral, mais on a des fois des cas qui sont unilatéraux. Bon, la prise en charge va toujours passer dans un premier temps par un traitement conservateur. Le patient étant jeune, on n'essaie pas de se précipiter pour une intervention chirurgicale massive. Il faut déjà un petit peu voir un peu comment le patient se comporte, voir quelles sont les options thérapeutiques, si on peut encore essayer des injections ou effectuer peut-être une chirurgie conservatrice avec une arthroscopie de la hanche pour aller essayer de redonner une mobilité à cette hanche. Donc il y a, je dirais, une espèce de cheminement avant de prendre la décision, est-ce qu'on va mettre une prothèse ou est-ce qu'on peut encore essayer de traiter conservativement. Si on fait une arthroscopie de hanche, c'est pas une opération simple. C'est pas le propos que je voulais tenir, simplement ça change un petit peu en termes de récupération ou en termes ou sur l'avenir du patient, étant donné que c'est pas une chirurgie définitive. La prothétique de hanche à la mise en place d'une prothèse, ça c'est une chirurgie définitive. Une fois qu'on a mis en place cette prothèse, il n'y a pas d'autre option, je dirais, on ne peut pas revenir en arrière. C'est quand même des implants qui peuvent s'user dans le temps, même si les matériaux ont vraiment beaucoup progressé ces dernières années. Malheureusement, je dirais, on ne peut pas garantir que c'est une opération qui est définitive. Je pense maintenant le matériel qu'on utilise dans la plupart du temps permet d'obtenir à peu près 25 à 30 ans avant d'être vraiment embêté ou de devoir changer cette prothèse.
Mais dans le cas de Nicolas, atteint d'une très forte dysplasie, les prothèses se sont immédiatement imposées.
Il m'a quand même souligné le fait qu'il fallait se faire opérer très vite. Donc, j'avais juste pas 40 ans, je crois, une quarantaine d'années. Et puis, il m'avait fait l'apologie quand même de ces nouvelles prothèses en céramique, donc, qui tenaient plus longtemps que les premières prothèses qui existaient, qui duraient une quinzaine d'années. Donc là, j'espère en tirer pour un moment. Il fallait le faire. Donc, je ne me suis pas vraiment posé de questions. Donc, l'opération, elle s'est bien déroulée en soi. Par contre, le post-opératoire était un petit peu plus difficile parce que j'avais eu un week-end un petit peu chargé au niveau des fêtes. On est sorti tard, on avait bu pas mal d'alcool. Puis ça, c'est une chose qu'il ne faut vraiment pas faire quand on va se faire opérer. Alors là, j'ai pu le remarquer. Parce que je me suis tapé 11 jours de clinique, donc ça c'était long, ça c'était très long, et puis c'était uniquement de ma faute, parce que la deuxième hanche, j'ai fait très attention le mois d'avant, arrêter de boire, arrêter de fumer, puis me préparer un peu mieux à cette opération, parce que c'était pas si anodin que ça. Donc là j'ai fait que 3 jours de clinique, donc la preuve qu'il y a quand même une sacrée différence par rapport au rythme de vie, à l'hygiène de vie qu'on pouvait avoir avant l'opération.
Si les deux hanches sont, on va dire, usées de manière concomitante, identiques, le patient ne peut pas vous dire j'ai plus mal d'un côté ou de l'autre, théoriquement, on peut très bien opérer les deux hanches le même jour. Dans ma pratique, ce n'est pas ce que je fais, simplement parce que la plupart du temps, il y a quand même un décalage entre l'usure d'un côté et de l'autre. Et on peut très bien opérer peut-être 3 à 6 mois plus tard si tout d'un coup il devait y avoir un problème ou que le patient est tellement content de la prothèse qu'il n'en peut plus de souffrir de l'autre côté, il préfère se faire opérer rapidement de l'autre côté. Mais on peut opérer des deux côtés en même temps si nécessaire. Ça reste une chirurgie quand même assez invasive puisqu'on va sectionner le col du fémur, donc ce n'est pas juste un curage dentaire, quoi. Donc il faut être quand même conséquent avec ça. D'un point de vue chirurgical, la durée de l'opération va varier d'une personne à l'autre, va varier même d'un côté à l'autre. Ça peut aller de 35 minutes à 1h30, ça dépend de la difficulté technique. Chez les gens jeunes, très musclés, c'est pas toujours facile. Moi, j'effectue de la chirurgie par voie mini-invasive antérieure, donc on touche quasiment pas la musculature, on la repousse. Mais c'est un petit peu plus le challenge, un petit peu plus important pour éviter justement d'avoir des fractures du fémur ou des choses comme ça. Et donc, il faut prendre le temps pour que ça soit bien fait.
Les premiers jours, on marche déjà. Donc, même quand j'étais à la clinique, je commençais déjà à marcher avec les béquilles. Donc, c'est même le lendemain, il faut direct se mettre sur les jambes. Donc, ça, c'est facile, ça va. Après, moi, je suis assez sportif. Donc, finalement, j'ai vite lâché les béquilles. À la sortie de la clinique, je suis rentré chez mes parents. Parce qu'on ne peut pas faire grand-chose, finalement.
Alors la rééducation, c'est intéressant parce que justement, c'est pas forcément une rééducation extrêmement complexe. La prothétique de hanche par voie mini-invasive antérieure, ce qu'on fait au départ, c'est qu'on réducte le patient à la marche à plat essentiellement dans les premières semaines, simplement pour éviter de tirer sur les cicatrices et d'avoir des inflammations tendineuses ou des déchirures musculaires. Et puis assez rapidement, le patient se rend compte à quel rythme il peut évoluer. On va pouvoir assez rapidement aller dans l'eau nager, on peut assez rapidement refaire du vélo. Il y a certains mouvements à éviter à cause des risques de luxation. Ça reste une des complications majeures de la chirurgie de la hanche. Et si on se déboîte la hanche après l'intervention, on ne va pas faire du grand écart dans les semaines qui suivent l'intervention. Ensuite, je dirais, à partir du deuxième, troisième mois, on a déjà des activités qui viennent quasi similaires à ce qu'on faisait avant l'intervention et même dans des meilleures conditions, étant donné que la douleur a été supprimée. Je déconseille à mes patients quand même de pratiquer la course à pied ou le marathon, simplement parce que on peut le faire, mais c'est pas recommandé, on va dire, pour la prothétique de hanche. Et même s'il y a une grosse mode maintenant pour l'ultra trail ou le trail, c'est quand même pas vraiment des sports adéquats pour certains patients.
Pour Nicolas, c'est une renaissance après plus de 15 ans de douleur.
Quand je suis rentré à la maison après la première opération, c'était incroyable, je dormais bien. Donc, vers des nuits en entier, ça ne m'était plus arrivé depuis très longtemps. Alors ça change la vie. Après, il y a aussi un côté aussi au niveau de l'humeur qui est plus agréable pour mon entourage, ça c'est clair. Ce qui est drôle, c'est que j'ai réappris à faire plein de choses que je ne pouvais pas faire. Se mettre en tailleur, c'est des petites choses de la vie que je ne pouvais pas faire et puis que je peux refaire. Donc ça, c'était vraiment un changement qui était très positif. Puis on voit tellement de bien que finalement, les douleurs, parce qu'on a quand même pas mal de douleurs avec la reformation de certains muscles qui n'étaient pas du tout utilisés durant toute ma vie. Donc il y a des muscles qui tirent un peu, mais c'était tellement rien par rapport à ce que j'avais vécu. Que moi, j'ai vraiment plutôt vécu ça comme quelque chose d'extrêmement bénéfique. Je peux courir plus longtemps, je peux courir plus vite. Au tennis, je me déplace beaucoup mieux. Non, il y a énormément de choses qu'on changeait, quoi. C'était presque une deuxième jeunesse, on va dire. Dès l'opération de la deuxième hanche, même quelques jours après, je ne boitais plus. Première hanche, après l'opération, j'étais faire du patinage sur glace. Donc, c'était peut-être pas la meilleure idée. Il y a une spéciale, mais c'est vrai que c'est pas très malin de faire vraiment des trucs où les hanches, elles s'écartent. Donc, tout ce qui peut être, à la limite, escalade, patinage, roller, snowboard, c'est pas terrible, terrible. Mais bon, l'année d'après, j'étais de nouveau en snowboard à fond, puis ça marchait super. Donc, ou alors, vu comment je marchais, je pense qu'il y a tout le monde qui était assez content que je me fasse opérer, même pour mon bien-être à moi. Donc, non, c'était plutôt positif, vraiment. Et puis, moi, j'ai jamais vraiment fait les choses comme tout le monde. Donc, que ce soit à 40 ans, ou à 50, ou à 30, ça n'aurait pas changé grand-chose chez moi. Les gens étaient déjà assez habitués à ce genre d'excentricité de ma part, on va dire.
On voit de tout, il y a des gens qui font du parachutisme avec leur prothèse de hanche, des profs de karaté qui font le grand écart une année, deux ans après, même avec deux hanches. Donc voilà, bon. Il n'y a pas de restriction, on va dire, pure et dure. N'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut aussi voir un peu d'après les capacités de chacun. Il y en a qui font du saut en parachute, il y en a qui font de la montagne, qui font de l'alpinisme. Voilà, il n'y a pas de restriction directe. Ça va dépendre un petit peu du patient et de ses capacités déjà d'avant l'intervention. On a des sportifs ou des profs de sport qui enseignent le tennis, le ski ou je ne sais quoi, qui, après la mise en place de leur prothèse, retrouvent un niveau qui est même supérieur à ce qu'ils avaient dans les quelques, peut-être mois, voire deux ou trois ans avant l'intervention chirurgicale, puis ils étaient vraiment limités par la douleur et la gêne liée à leur handicap, quoi, ou liée à leur pathologie. Enfin, très souvent, on a quand même le commentaire « Ah, si j'avais su, je serais venu plus vite, quoi ».
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Entre Parenthèses. Vous trouverez des ressources sur la dysplasie en lien dans le descriptif de cet épisode. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre application d'écoute préférée pour donner de la visibilité à ce podcast. Et surtout, n'hésitez pas, partagez-le et parlez-en autour de vous. Et nous, on se retrouve à la rentrée.